mort au rat. Les boulettes empoisonnées, signé Rongemaille.
Heinz est arrivé dans notre section sport-études après avoir été viré de l'université de Zurich, où il avait eu des histoires. Quand il est arrivé dans le gymnase, il a produit son petit effet. Pas très grand mais râblé, blond gominé comme un officier prussien. Il arborait la cicatrice la plus terrible que j'ai jamais pu observer sur un visage humain. Une crevasse tout en relief qui lui partait du coin de la bouche pour filer au-dessus de son oreille et disparaître sous ses cheveux plaqués. Plus tard, on a pu voir qu'il n'y avait pas que sur le visage qu'il avait pareille marque. À 19 ans à peine, le corps de Philippe Heinsberger était une cartographie complète de ses combats à l'épée. Dans notre lycée, il y avait bien une section d'escrime, mais Heinz ne s'y était pas inscrit. On le lui avait interdit. Pour lui, ce serait équitation, gymnastique au sol et natation, et c'était un phénomène dans toutes ses disciplines. À la piscine, son corps fuselé filait sous l'eau et à la surface comme une torpille, et tout le monde l'observait fasciné lorsqu'il sortait de l'eau. Heinz n'était rien d'autre qu'une masse de muscles noueux lacérés de partout. Certaines estafilades étaient si profondes que lorsqu'il faisait quelques mouvements anodins comme se pencher, ses vallons de peau reconstitués offraient le spectacle odieux d'une chair prête à s'ouvrir à nouveau. Heinz avait été surpris alors qu'il s'échappait d'une cave de son ancien gymnasium, cette horrible estafilade béante sur la joue, ses habits maculés de sang, abandonnant derrière lui l'adversaire d'un duel qui avait mal tourné, embroché comme un poulet. Heinz s'était lui-même rafistolé la joue avec deux simples points de suture, avec un hameçon et du fil chirurgical qui ne quittait jamais le fond de sa poche, face à un miroir. Quand on lui demanda si ça ne s'était pas infecté ensuite, Heinz nous avait souri, et tout le monde s'était juré de ne plus jamais faire sourire Philippe Heinsberger pour quelque motif que ce soit. C'était un spectacle trop écœurant. Sa cicatrice se tordait alors pour gonfler comme une saucisse éclatée sur un grill, menaçant de se déchirer d'un coup. Quand on lui demanda les raisons de ce duel, il se montra évasif. Son père était un personnage suffisamment important pour que l'affaire n'aille pas plus loin, et Heinz dut se faire une raison. Non seulement il ne pouvait plus mettre un pied en Suisse, mais l'escrime, c'était terminé pour lui. Quand nous croisions le fer jusque tard le soir parfois, juste pour le plaisir, et que Heinz avait terminé ses cours, il se mettait dans les gradins, attentif et silencieux, et ne manquait jamais de nous adresser à nous, fins bretteurs que nous pensions être, des regards chargés d'envie et parfois du mépris le plus profond. Vers la fin du dernier trimestre, on vit un drôle de type traîner autour de nos équipements, un grand, raide comme une cravache, qui semblait chercher quelque chose. Il semble qu'il ait fini par le trouver. Un matin, on retrouvait le gymnase dans un drôle d'état, les sabres et les épées dérangés et une immense tache au sol qui avait était nettoyé à la va-vite. On ne vit pas Heinz pendant plusieurs jours, mais un des nôtres nous assura avoir vu ce géant qui avait erré dans notre lycée, le bras en bandoulière, monter dans un taxi. Heinz revint pour les épreuves de fin d'année. Il portait un bandeau sur un œil et avait un air encore plus bravache. Quand on voulut savoir ce qui s'était passé au juste, il partit dans une longue diatribe furieuse en allemand. Thomas, qui était bilingue, nous expliqua qu'en gros, ce que Heinz venait de dire, c'est que la prochaine fois, c'est lui qui retrouverait ce fils de chien et qui lui réserverait le même sort qu'à son crétin de frangin. On ne savait donc pas qui des deux avait gagné cette fois, mais on avait compris que le duel n'était pas terminé.